Eh bien, je vais commencer par une petite mise au point, parce qu'il m'a été rapporté que certains d'entre vous avaient été déçus ou même fâchés, irrités, parce que... Enfin, ils ne sont peut-être plus là, mais ils étaient venus pour entendre parler de poésie et il a été question d'ordures. Et ça ne leur a pas plu. Je crois... En effet, que ce n'est pas un cours pour ceux qui pensent que la poésie, ce sont des petites fleurs et des clairs de lune. Baudelaire disait « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Et au fond, c'est un peu cette conception de la poésie avec Baudelaire qui est au fond de ce cours. Je pensais à cette... proposition de Jacques Lacan qui disait que toute publication était une poubellication. Et nous avons parlé de la poubelle de la semaine passée, de cette dialectique de l'or et de l'ordure. Et donc, au fond, le sujet de ce cours, c'est bien de traiter ce chiffonnier comme un répondant allégorique du poète. C'est l'expression que Jean Starobinski utilisait pour le saltimbanque, lorsqu'il parlait du portrait de l'artiste en saltimbanque. Et il me semble que cette expression est encore plus pertinente quand il s'agit du chiffonnier au XIXe siècle, d'une littérature qui est faite de déchets et qui transforme les déchets en or. Il se trouve que le premier livre que j'avais publié s'appelait « La seconde main ». Au fond, c'était déjà un livre de chiffonnier que celui-là. Et la semaine dernière, j'ai cité une page de Louis-Sébastien Mercier qui procédait déjà à ce jeu du chiffonnier et du littérateur. Il y a entre eux une dépendance mutuelle, une sorte de complémentarité, et avec, je l'introduisais, des différences. Il y a une demande de chiffon pour le travail du chiffonnier, il y a une pénurie de chiffon, tandis que le poète offre sa poésie sur un marché de l'offre et non de la demande. Quelques mots pour rappeler ce que j'ai essayé de dire la semaine passée et redémarrer. J'ai essayé de montrer que cette industrie du chiffonnage ou cette confrérie de la chiffonnerie était au centre de l'économie et de la société au XIXe siècle, qu'elle était un rouage essentiel et partant qu'elle était omniprésente dans les représentations artistiques, littéraires, culturelles. Il y a un moment où le chiffonnier est un fournisseur indispensable de matières premières pour lesquelles il n'y a pas de substitut. Notre invité de la semaine dernière disait des succédanées qui apparaissent à la fin du siècle parce qu'il y a un moment où il y a concurrence entre les produits fournis par le chiffonnier et une nouvelle industrie, par exemple celle de la pâte à papier à partir du bois. Mais il se trouve que le sommet de cette chiffonnerie ou de ce chiffonnage, c'est l'âge de Baudelaire, Monarchie de Juillet et Second Empire. Et c'est donc pourquoi je voudrais explorer ce système de la chiff dans l'œuvre de Baudelaire et de ses contemporains. Écrivains, journalistes, les résurgences sont partout et je dirais que les considérations sociales et politiques sont importantes. Je vous ai aussi dit que j'avais deux points de départ à l'esprit. Les voici dans la bibliographie. Walter Benjamin, qui a parlé du chiffonnier dans ses propos sur la littérature panoramique et de Baudelaire. Mais je vous ai dit aussi que j'avais une certaine envie de revoir un certain nombre de ces hypothèses, en particulier celle de la solidarité de Baudelaire avec le chiffonnier qui le sauverait de la réaction. Il me semble que c'est une thèse qui mérite d'être revue. Je vous renvoie donc à tous les travaux de Benjamin. Ils sont nombreux, où il parle de Baudelaire et du chiffonnier. Et puis l'autre point de départ, je vous le signalais, c'était le livre de Francesco Orlando, cette histoire de l'objet désuet, là aussi, livre tout à fait remarquable, mais, me semble-t-il, dont il faut revoir certaines hypothèses, puisque, je le montrais rapidement, il n'y a pas d'objet désuet du temps de Baudelaire. Il y a toujours quelqu'un pour se l'approprier, le faire sien. Et je donnais l'exemple du Cachemire, qui est bien cet objet d'occasion par excellence, qui ne se dévalue pas, qui est durable. Et j'ai montré de nombreux exemples de cette thèse. Rien ne se perd, tout se transforme, leitmotiv du XIXe siècle jusqu'à ces images d'Épinal de l'école de Jules Ferry. Mais j'ai tout de même un peu parlé de poésie puisque j'ai essayé de montrer dans un premier exemple que ce système du chiffonnier était présent dans le deuxième spleen de Baudelaire, que c'était en quelque sorte un poème du chiffonnier aux deux sens du mot, hein, l'homme et la chose, le meuble, tous les matériaux de la récolte du chiffonnier sont dans le poème, et puis il y a le meuble, ce chiffonnier qu'Étienne de Jouy, témoin important, appelait le chiffonnier sentimental, hein, ce meuble anglais dans lequel on garde les souvenirs, les keepsakes de ses amis. Et je vous rappelais que ce chiffonnier sentimental est le développement anglais d'une coutume allemande, celle-là, celle de l'album sentimental, ce cahier blanc dans lequel on fait écrire des poèmes ou des sentiments, des pensées par ses amis, le stamp book ou le poésie album. Donc c'est une sorte de prolongement. Et comme dit Étienne de Jouy, le chiffonnier sentimental, celui du spleen du Paris, c'est l'ultimatum de l'album sentimental. Je voudrais donc, de la même façon, retrouver ce système du chiffonnier, ces sortes de résurgences, de remontes, un peu partout dans l'œuvre de Baudelaire et chez ses contemporains. Et j'avais annoncé que je repartirais de Victor Hugo, puisqu'il est l'apôtre de cette exploitation des déchets qui entre dans le grand cycle de la vie. Hugo est certainement le grand chiffonnier du XIXe siècle, plus que quiconque. Et il y a justement un livre qui s'appelle « Victor Hugo, chiffonnier de la littérature ». Je me suis jeté dessus. Mais malheureusement, il traite de Victor Hugo d'un autre point de vue, celui du chiffon neuf et non usé. Il s'agit d'un livre sur Hugo et le vêtement, et il y a très peu dans ce livre, seulement quelques pages sur le chiffon usé, sur le chiffonnage. Au fond, le travail sur Hugo chiffonnier reste à faire, je ne ferai que l'effleurer. Mais repartons donc de Victor Hugo et de ce chapitre remarquable sur les égouts de Paris, dans Les Misérables, grand roman du recyclage, et de ce chapitre intitulé L'instinct de Léviathan. Hugo met en valeur les bénéfices pour l'humanité de la transformation de tous les déchets produits par la ville. Bon, c'est une sorte d'ode aux ordures et en même temps de procès des égouts qui, comme à Londres, emportent tous les excréments, tous les excrétats, comme disait notre invité de la semaine dernière, vers la mer et les gaspillent donc. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre, au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Ces tas d'ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de voirie, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est? C'est la prairie en fleurs, voici les fleurs. C'est de l'herbe verte, c'est du serpolet et du thym et de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Voilà le cycle de l'ordure et de l'or. Ce sont ces résonances-là qu'il faut explorer. Eh bien, puisque cette année je suis un peu plus capable que d'habitude de vous dire ce dont je parlerai dans les prochaines leçons, les prochaines leçons seront consacrées à ces expressions de Victor Hugo. « Tas d'ordures au coin des bornes, aujourd'hui, tombereau de boue qu'a ôté la nuit dans les rues, la semaine prochaine, affreux tonneau de la voirie, dans 15 jours. » Voici les prochaines leçons sur ces trois notions et leur résurgence dans la littérature. Alors Baudelaire ne parle pas de ces pages dans son compte-rendu du roman, mais c'est bien cela, l'univers des fleurs du mal. Et dans ces quelques lignes de Hugo, il y a donc ces expressions remarquables que je voudrais explorer avec vous. La première, c'est donc ce coin des bornes, ou coin de la borne. Coin de la borne. C'est le lieu où l'on déposait les ordures avant l'invention des boîtes poubelles en 1884, date à laquelle le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, imposa, après une épidémie de choléra, que les ordures soient déposées dans des boîtes spéciales munies d'un couvercle. Cette mesure suscita une protestation des chiffonniers qui se trouvèrent lésés, qui obtinrent du conseil municipal une modification de l'arrêté et qui furent même entendus par une commission parlementaire en mars 1884. C'était une belle époque, celle de la Troisième République, où on faisait venir les chiffonniers au Palais Bourbon pour les entendre sur leur métier. Et il y a un rapport imposant où on entend la voix des chiffonniers, magnifique échange qui illustre le libéralisme des élus de cette Troisième République, leur curiosité pour la vie des gens. L'arrêté de novembre 1883 stipulait en effet qu'il était interdit aux chiffonniers de vider les récipients sur la voie publique ou de faire tomber à l'extérieur une partie quelconque de leur contenu pour y chercher ce qui peut convenir à leur industrie. Après protestation, il fut donc modifié et ils furent autorisés à faire le triage sur une toile, à condition de remettre les ordures dans les récipients. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un peu le début de la fin 1884. On a beaucoup moins besoin d'eux pour l'industrie. Et c'est cette décision qui débarrassa les voies publiques des immondices qui les encombraient. Cette tournure figée dans la langue française, le coin des bornes, c'est un euphémisme pour le rebut au sens propre et au sens figuré. C'est une expression très ordinaire. Je n'y avais jamais prêté garde jusqu'au printemps dernier. Elle est dans toute la littérature française. Elle est très fréquente dans la langue et jusqu'au début du XXe siècle où elle tombe en désuétude. Et sa signification va tellement de soi qu'elle n'est nulle part commentée, nulle part expliquée. Les bornes dans les rues sans trottoir du vieux Paris étaient, je cite l'ordonnance du roi de 1823, destinées à maintenir les roues des voitures à un éloignement suffisant des constructions pour ne point les endommager, moyennant un droit de petite voirie. Autrement dit, les propriétaires payaient pour mettre des bornes devant leur maison qui servaient à protéger leur maison des voitures. Et ces bornes servaient aussi aux piétons à se réfugier au passage des voitures. Nombreux témoignages à ce sujet. Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignures de rue, disait encore l'ordonnance du roi de 1823. Traditionnellement, les ordures étaient donc déposées en tas au coin des bornes. Suivant l'article 1er de l'ordonnance de police du 27 mars 1834, que je cite, « Les boues et les immondices sont mises en tas. Ces tas doivent être placés dans les rues sans trottoir auprès des bornes, dans les rues à trottoir, le long du ruisseau du côté de la chaussée, si la rue est à chaussée bombée et le long des trottoirs, si la rue est à chaussée fendue. Nul ne peut pousser les boues et immondices devant les propriétés des voisins. On pose ses ordures devant sa borne. L'ordonnance en question entrait dans beaucoup de détails et les nombreuses interdictions comme celle-ci, il est expressément défendu de jeter dans les égouts d'eau pluviale, je rappelle, des urines, des boues et immondices solides, des matières fécales et généralement tout corps ou matière pouvant obstruer ou infecter les dix égouts. Il est par ailleurs défendu de déposer contre la borne les bouteilles cassées, les morceaux de verre, de poterie, de faïence et tous les objets de même nature qui pourraient occasionner des accidents, objets qui doivent être portés aux voitures et remis directement aux desservants. Vous avez noté, en 1834, il y a à Paris des rues à bornes et des rues à trottoir. Le trottoir est nouveau à Paris, cette banquette surélevée au bord de la chaussée, réservée aux piétons. Ils ont été introduits à Paris en 1781. Louis-Sébastien Mercier évoque, dans l'un des premiers billets des tableaux de Paris, ce qu'il appelle le défaut de trottoir à Paris, qui rend presque toutes les rues périlleuses. Jusqu'à cette date, on ne trouvait des trottoirs à Paris que sur le Pont Neuf, le Pont Royal et le long de quelques quais. Le premier trottoir parisien apparaît rue du Théâtre Français, actuelle rue de l'Odéon, tout près d'ici, en raison des embouteillages à l'entrée et à la sortie du théâtre et des nombreux accidents entre les voitures et les piétons. Et voici ce qu'en dit Mercier, un peu plus tard, dans le tableau de Paris. « Absolument inconnu jusqu'à ces jours dans les rues de la capitale, je crois que je l'ai reproduit, malgré l'exemple de Londres, c'est une invention londonienne que le trottoir, l'on vient enfin d'en commencer un des deux côtés de la nouvelle route du Théâtre Français. Mais la faute que l'on a commise, c'est d'y avoir mis mal à propos des bornes. » Donc on a mis des trottoirs, mais en plus des bornes le long des trottoirs, qui empêchent les cochers de faire filer les roues de leur voiture le long du trottoir. Ils les évitent soigneusement, crainte de s'accrocher, ce qui fait qu'au lieu du passage aisé de trois voitures, il n'en peut filer que deux. Les trottoirs de Londres sont très bas et tous sans bornes. Jamais les cochers ne font monter leurs roues dessus. Le petit parapet suffit pour les en empêcher. Le trottoir est donc introduit, mais on a conservé les vieilles bornes françaises et Michelet s'en plaint. La pauvre infanterie, dit-il, l'infanterie, c'est d'abord les gens qui marchent, les piétons, demande depuis longtemps cette retraite pour marcher plus paisiblement dans les rues de cette turbulente ville. Donc les trottoirs s'introduisent peu à peu entre 1800 et 1830. À Paris, vous le savez, Baudelaire se montre plutôt nostalgique du vieux Paris, de la ville avant Haussmann, mais quand il part pour Bruxelles en 1864, il est sensible au manque de trottoirs à Bruxelles. Peu de trottoirs, dit-il, ou trottoirs interrompus, conséquence de la liberté individuelle poussée à l'extrême. Pas de trottoir parce que chacun gère différemment le devant de sa porte. Alors ces bornes de Paris, du temps de Baudelaire, elles sont en nombre considérable. Là aussi, je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à m'y intéresser il y a quelques mois. On les découvre, par exemple, sur les photos de Marville. Voici, sur cette photo, 1868, une rue du quartier des Halles. Et vous voyez qu'elles sont, en effet, en très grand nombre dans les rues. Voici une rue qui est tout près d'ici, c'est la rue Saint-Julien-le-Pauvre, vue depuis la rue Galande. Et là aussi, vous voyez cette surabondance de bornes. Et voici la photo que j'ai prise ce matin. La rue a été très élargie. Vous voyez que l'église Saint-Julien-le-Pauvre a été dégagée, mais vous reconnaissez le coin et l'hôtel particulier, le porche de l'hôtel particulier sur la gauche. Mais tout le côté droit de la rue a été évacué. Et voici un autre coin de rue que vous connaissez très bien, c'est le restaurant Le Coupe-Chou, là, la rue Lanneau, c'est le coin à côté du Collège de France. À droite, c'est là où on a maintenant le laboratoire de physique. et vous voyez qu'il y avait un perruquier, Ferré Perruquier. C'était un quartier de chiffonnage et on revendait les cheveux là où nous avons le laboratoire de physique à présent. Photo de Marville, 1865. Photo d'Adjet qui a été prendre le même endroit en 1925. Les bornes ont disparu, comme vous le voyez. Le perruquier a été détruit, mais le laboratoire de physique n'a pas encore été construit. Et voici la photo que j'ai prise tout à l'heure, où on voit le laboratoire de physique sur la droite. Maintenant, depuis que je suis sensible aux bornes, je me promène à Paris en cherchant des bornes. La première que j'ai trouvée, c'est celle-ci, qui me paraissait assez belle. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je vous invite à aller la voir. Elle se trouve ruelle Sourdis, entre le 3 rue Charlot et le 15 rue Pastourel. C'est derrière la rue des Archives. Vous voyez qu'elle est très intéressante. Hein, c'est une impasse. Et elle a donc conservé ses pavés avec cette ruelle, ce ruisseau central, la borne contre le mur. Voilà la vue de cette petite impasse. Dépêchez-vous, parce que sur la droite, il y a des panneaux BNP et il y a des travaux dans l'immeuble qui est là. Je ne sais pas si ces bornes vont rester longtemps. En voici d'autres. C'est l'impasse du marché aux chevaux, tout près d'ici, rue Geoffroy Saint-Hilaire. Je parlerai du marché aux chevaux un de ces jours. Donc, et puis alors voici de belles bornes qui m'ont été envoyées par Nathalie Mauriac. Hein. 22 rue de la Folie, Méricourt. Et puis voici peut-être les plus belles. C'est passage Saint-Sébastien et rue Amelot. Un passage parallèle au passage Saint-Pierre-Amelot, dont il a été beaucoup question ces derniers temps, puisque c'est celui qui longe le Bataclan. On est dans le quartier du Bataclan. Il y a ces deux passages parallèles, très étroits, et l'un d'eux conserve encore ses belles bornes, dont l'une très usée. Si vous voulez bien m'en trouver de plus belles, je les prendrai volontiers. Vous aurez remarqué que dans les photographies de Marville, les bornes sont toujours immaculées. Le pavé est immaculé. Très clairement, on a procédé au nettoiement. Elles sont vierges de tout détritus. Ce sont des photos mises en scène, nullement des instantanées, et on voit d'ailleurs encore les traces de l'arrosage. Tandis que ces bornes étaient des lieux nauséabonds. Et voici les premières images de bornes que je trouve. Ceci, c'est un lavis de Norblin de la Gourdaine, fin du XVIIIe siècle, hein, 1787 à peu près, j'imagine, où on voit bien ce chiffonnier qui est déjà typique à la fin du XVIIIe siècle, avec sa hotte, son crochet et sa lanterne. Et voici l'une de ces gravures qui m'intéresse aussi en raison de Baudelaire et parce qu'elle nous montre la malpropreté de cet endroit. C'est un chiffonnier de Carl Vernet, gravé par Debucourt, ainsi décrit, le chiffonnier, debout, sa hotte sur le dos, son crochet sous le bras et sa lanterne à la main, est tourné vers la gauche, au coin d'une borne, pour satisfaire un besoin. La lanterne éclaire ce coin de mur et envoie des reflets de lumière sur la figure, le chapeau et la hotte du chiffonnier. Carl Vernet, Debucourt, comme vous le savez, Baudelaire les appréciait. Pour lui, ils étaient les précurseurs du peintre de la vie moderne. Ils sont cités au début et à la fin du peintre de la vie moderne. Et dans quelques caricaturistes français, ce grand texte de Baudelaire, où il les loue pour les images triviales, croquis de la foule et de la rue, caricatures qui sont le miroir le plus fidèle de la vie. Et c'est probablement à cette série que Baudelaire faisait allusion, une série de gravures des années 1820 de Carl Vernet et de Bucourt qui représentent les petits métiers parisiens. Voici le chiffonnier, voici le marchand de peau de lapin qui vient se fournir chez une cuisinière. Et voici la dernière de la série qui illustre bien la malpropreté de ces endroits. Il est défendu de faire ici ces ordures, gravure dans laquelle on voit deux personnages qui clairement satisfont leurs besoins autour en dessous de cette inscription de la borne. Parmi tant d'attestations des mots « coin des bornes » dans la littérature française du XIXe siècle, depuis Mercier, ensuite chez les aînés et les contemporains de Baudelaire, chez Musset, Vigny, Nerval, Gautier, Hugo, Balzac, Dumas, Ponson du Terrail, Paul Féval, Flaubert, Georges Sand, les Goncourt, Chateaubriand dans La vie de Rancé et les Mémoires d'outre-tombe, sans oublier, bien sûr, Murger et Champfleury, toute occurrence qui mériterait d'être commentée en détail, je voudrais citer une ou deux références exemplaires au coin de la borne dans la littérature française. La première, c'est dans Les Mystères de Paris, publié en feuilleton à partir de juin 1842. Les deux héros, Fleur de Marie ou la Goualeuse et le Chourineur, introduits dans les deux premiers chapitres, sont tous les deux nés au coin de la borne. C'est le lieu de l'enfant trouvé, la borne. Vous vous souvenez du début du Mystère de Paris, Rodolphe, incognito, interrompt le Chourineur qui est en train de poursuivre la Goualeuse, et puis, dans un cabaret, il lui raconte tous deux leur histoire. Et dans ces deux histoires, le coin de la borne est important. « Mon père ou ma mère m'ont jeté au coin de la borne comme un petit chien qu'on a de trop », dit la Goualeuse. Pas d'autres origines que le coin de la borne. Et puis le Chourineur raconte son histoire, et son histoire, c'est en somme entre deux bornes. Lieu de ma naissance, le premier coin de n'importe quelle rue, la borne à gauche ou à droite, en descendant ou en remontant vers le ruisseau. « Enfant, dit-il, je me resterai avec des feuilles de choux que je ramassais au coin des bornes. » Et puis, il continue son histoire en disant « C'est encore une borne qui figure à ses yeux son destin. Je pourrai tranquillement crever comme un autre au coin d'une borne. » Le coin de la borne est donc omniprésent dans la littérature du XIXe siècle et on pourrait, me semble-t-il, écrire l'histoire de cette littérature à partir de ces mots. Peu signalés jusqu'ici, mais c'est un petit peu comme la borne. Une fois qu'on en a pris conscience, on la voit partout. Par exemple, dans Notre-Dame de Paris, la borne procure, dit Victor Hugo, un de ces oreillers du pauvre que la Providence tient tout près au coin de toutes les bornes de Paris et que les riches flétrissent dédaigneusement du nom de tas d'ordures. Tas d'ordures, oreiller du pauvre, au coin de la borne. Pour fixer cette borne, je retiendrai enfin deux occurrences littéraires. Je crois qu'elles suffiront, puisque l'une est au sens propre et l'autre est au sens figuré. La première provient des Aventures de Mademoiselle Mariette. C'est un livre auquel il faut souvent se référer. C'est un livre de Champfleury, qui est un petit peu le prototype du roman réaliste. Champfleury est lié à Baudelaire. Bon, c'est une histoire de journaliste, de théâtreux bohème, et ce n'est pas inutile de le relire pour lire La Fanfarlot, la nouvelle de jeunesse de Baudelaire. Le roman met en scène la petite presse, le théâtre, la bohème chineuse. Bon, ça rappelle aussi Les Illusions perdues. Et c'est un ami des journalistes, un artiste réaliste, peintre de casseroles, qui parle d'un objet trouvé au coin d'une borne. En dépit des ordonnances de police, vous allez vous en apercevoir, qui sont apparemment pas très respectées. Voici un joli chiffonnier de Traviès, mais on en verra d'autres. La belle trouvaille que j'ai faite hier. Je passais dans la rue, j'aperçois au coin d'une borne un morceau de faïence colorée. L'ordonnance de police disait qu'on n'avait pas le droit de jeter des faïences au coin des bornes. Je le ramasse, c'était la moitié d'un saladier de campagne qui représentait un Chinois habillé tout en rouge en train de pêcher dans le fleuve jaune. Malheureusement, mon Chinois était coupé par la moitié. On n'avait jeté que ce morceau aux ordures. Je m'en allais lorsque je vois un chiffonnier qui retire avec son crochet de dessous le tas l'autre moitié du saladier. J'ai cru que j'allais sauter sur lui. Voilà la bataille typique de chiffonnier. Mes yeux devaient lancer des éclairs. Ce chiffonnier a été brave, il n'a pas abusé de ma position, il ne m'a vendu que 2 sous, 10 centimes, sa moitié de saladier. Je l'ai bien vite porté à l'homme qui met des attaches et j'ai maintenant au mur de mon atelier un saladier superbe, brillant comme un soleil. Chanfleury, ne l'oublions pas, c'est un bibloteur. Il collectionnait lui-même les faïences et il écrira plus tard un livre sur les faïences. Il y a donc de lui une sorte d'accent de vérité dans cette trouvaille d'un demi-saladier complété par un chiffonnier bienveillant. Chose vue, second exemple, très métaphorique celui-ci, chez Victor Hugo dans Les Châtiments, le poème déjà nommé qui date de décembre 1852. Si, par hasard, la nuit, dans les carrefours mornes, fouillant du croc l'ordure où dort plus d'un secret, un chiffonnier trouvait cette âme au coin des bornes, il la dédaignerait. En somme, l'insulte suprême. L'âme en question, qui est abandonnée au coin de la borne, c'est celle de Dupin aîné, qui présidait l'Assemblée législative en décembre 1851, qui est une tête de Turc de Hugo. À ce titre, il est condamné à jamais par Hugo pour sa lâcheté, car il s'est retiré à l'arrivée de la troupe dans la salle des délibérations lors du coup d'État. Et vous voyez qu'on a là de nouveau des éléments très familiers du tableau. La nuit, qui était omise par Chanfleury, c'est le temps privilégié de l'activité au coin de la borne, le crochet du chiffonnier, rendu ici par le croc. Enfin, cette assimilation du chiffonnier à quelque avatar du justicier extrême. C'est celui qui trie les âmes de l'enfer. C'est une parenté que l'on reverra souvent entre le chiffonnier qui trie les ordures et ce tri des âmes de l'enfer. L'expression « le coin de la borne », « le coin d'une borne ou des bornes », comme ce lieu réaliste ou métaphorique de la pauvreté, de la déchéance, du rebut et de la misère, très surabondant jusqu'à la fin du siècle. On le retrouve encore chez Maupassant, chez Vallès, chez Daudet, chez Huysmans, mais à ce moment-là, il entre en concurrence avec le trottoir, comme lieu de la misère. Chez Léon Blois, chez Anatole France, il disparaît tout à fait, et l'un des derniers, me semble-t-il, en tout cas le dernier que j'ai trouvé à utiliser cette expression, c'est Peggy, qui l'utilise au sens tout à fait traditionnel, ce qui nous montre que voilà un écrivain qui, par ce côté-là, se rattache au XIXe siècle, à la tradition réaliste, et l'on trouve chez lui encore en 1911 et encore dans Ève, à la veille de la guerre de 14, cette expression, l'une des dernières attestations, est toujours dans le sens, puisque c'est pour désigner des enfants abandonnés par un père qui les confie à la Vierge. Elle n'aura pas le cœur de les laisser orphelins, comme il avait été lâche tout de même, elle ne pouvait pas les laisser au coin d'une borne. C'était bien là-dessus qu'il comptait le gueux. Mais en une ou deux générations, après que les bornes eurent été remplacées par les trottoirs, leurs coins ont été tout à fait chassés de la langue française et de la littérature. Et l'expression qui était tout à fait figée jusque-là, ivre-mort au coin d'une borne, on est ivre-mort au coin d'une borne, tout au long du XIXe siècle, elle disparaît. On la trouve, par exemple, dans cet autre roman que je citais la semaine dernière, « L'âne mort et la femme guillotinée », un roman de Jules Janin que je vous recommande. C'est contre la borne qu'on s'étend conventionnellement quand on est ivrogne, comme sur cette jolie vignette de Daumier dans « La grande ville » de Paul de Kock en 1842. La borne, c'est donc le lieu habituel de la déchéance, de l'ivrognerie. Enfin, c'est le lieu traditionnel de la prostitution dans la littérature du XIXe siècle, depuis le tableau de Paris de Mercier. Mercier procède au classement des courtisanes parisiennes et il descend dans la hiérarchie du métier depuis les plus aisés, jusqu'à celle qu'il appelle la raccrocheuse qui se morfond le soir au coin d'une borne. C'est le cas exact dans L'âne mort ou la femme guillotinée, hein, ce récit de la déchéance d'une jeune provinciale innocente qui arrive à Paris, qui succombe à la vie parisienne et qui dégringole de degré en degré jusqu'à la rue. Non, je n'ai pas mis ça. Tombée du salon, je cite, elle est tombée du salon où elle réussissait comme courtisane, elle n'avait plus de refuge que la borne. Ainsi, elle comprenait confusément, mais avec peur, dans quelle route plus horrible encore elle allait entrer. La prostitution n'était plus pour elle qu'une question de faim et de pauvreté. Et vous voyez que de degré en degré, elle parvient ainsi jusqu'à la borne, aux limites de la perdition, après avoir, et je cite ici Baudelaire à propos de ce roman, après avoir dernière infidélité, torture suprême, essayer les pouvoirs de ses charmes sur les geôliers et ses exécuteurs. C'est Baudelaire dans « Choix de maximes consolantes sur l'amour ». Et je crois que je vous disais la semaine dernière que c'est un roman, « L'âne mort et la femme guillotinée », dont il se souviendra jusqu'au bout, puisqu'il en parle encore de Bruxelles dans l'une de ses dernières lettres, dans un brouillon d'une lettre à Jules Janin, un projet d'article de la fin de sa vie où il reproche à Jules Janin d'être devenu un auteur de bons sentiments et de n'avoir plus cette ironie et cette noirceur de ses débuts. Alors, Baudelaire, et le coin de la borne chez Baudelaire, et le coin et la borne. Eh bien, je commencerai par citer un poème qui lui a été attribué, mais qui ne lui est plus attribué. Baudelaire et la borne. Voici un poème d'Ernest Praron. Ernest Praron, qui était un compagnon de la jeunesse bohème de Baudelaire. Et dans ce poème, le destin typique de la jeune fille est relaté dans les mêmes termes exactement. On l'appelle Thérèse, elle vient chaque soir au fond du carrefour sur la borne s'asseoir. Thérèse, Esther, Esther heureuse, une prostituée qui s'appelle Thérèse a de bonnes chances de se prénommer d'abord Esther, comme Esther Lachmann, hein, la païva, l'une des plus fameuses courtisanes du XIXe siècle. Le poème de cette Thérèse sur sa borne appartient au recueil collectif Vers, qui a été publié en 1843 par Ernest Praron avec Gustave Levavasseur et Auguste Dauzon. Donc c'est un recueil collectif publié par trois amis de Baudelaire, amis de jeunesse. Et Baudelaire, il était entendu que Baudelaire devait collaborer à ce recueil avec eux. Il s'est retiré au dernier moment, mais le poème de Praron en question lui a été attribué et il figure dans un recueil de vers retrouvés de Baudelaire, publié par Jules Mouquet en 1929. Aujourd'hui, il est dans les notes de la Pléiade de Claude Pichois, mais il n'est plus dans le corps du texte. Alors, la trajectoire de cette Thérèse est tout à fait familière. Hein. La trajectoire de cette Thérèse est absolument typique. Elle a connu une jeunesse heureuse, choyée, frivole. Elle l'a passée à fréquenter les bals, le bois et l'opéra, tandis que les hommes se battaient pour sa conquête. Et puis, elle connaît des revers de fortune. Et ce sont ces revers de fortune auxquels les caricaturistes condamnent d'ordinaire les grisettes et les lorettes. On en verra de nombreux exemples. Le destin de la grisette c'est de devenir chiffonnière. Notre invité de la semaine passée nous rappelait qu'il y avait une bonne proportion de chiffonnières parmi les chiffonniers, à peu près un tiers, et un tiers des chiffonniers étaient des femmes, et selon les statistiques de la police, environ la moitié de ces chiffonnières étaient d'anciennes prostituées. C'était un destin courant des prostituées que celui-là. Donc, les grisettes et les lorettes tombent au rang de trotteuses, voire de coureuses, comme on appelle les chiffonnières. Et voici donc le destin de cette Thérèse. On l'appelle Thérèse. Elle vient chaque soir au fond du carrefour sur la borne s'asseoir. Et puis, vers la fin du poème, maintenant, elle vient le long des murs, la nuit, s'accrochant aux passants que le ciel lui conduit, ramassée dans la boue et d'une main flétrie, quelques sous que lui gagne une horrible industrie. On a tout le décor de la rue que j'étais en train de décrire, de ce coin de la borne, la nuit, les murs, l'accrochage du passant, le ramassage des sous dans la boue de la rue, ces sous, ces quelques sous que Champfleury payait son demi-vase de faïence, tous ces accessoires qui complètent le décor mélodramatique des bornes, de la misère et de la prostitution. Et au fond, on comprend que l'on ait pu être tenté de donner ces vers à Baudelaire. C'était une tentation tout à fait possible. Thérèse s'accroche aux passants comme Mademoiselle Bistouri dans le spleen de Paris à l'extrémité du faubourg, sous les éclairs du gaz. Et surtout comme le spectre en plein jour, raccroche le passant dans la fourmillante cité des sept vieillards, dans les tableaux parisiens. Raccroché. C'est la même activité, accroché, qui est celle du chiffonnier ou de la chiffonnière et de la prostituée sur sa borne. Et je dirais, c'est encore ce dont Baudelaire lui-même rêve en janvier 1866, à la toute fin de sa vie, avant qu'il ne tombe malade. Et c'est dans l'une de ses dernières lettres de Bruxelles à Sainte-Beuve. Il rêve de compléter le spleen de Paris et il écrit à Sainte-Beuve, enfin, j'ai l'espoir de pouvoir montrer un de ces jours un nouveau Joseph Delorme accrochant sa pensée rhapsodique à chaque accident de sa flânerie et tirant de chaque objet une morale désagréable. Et on trouve dans cette phrase tous les mêmes termes qui désignent cette activité accrochée, raccrochée. C'est le geste même de la prostituée, comme celui du chiffonnier, et comme, dans cette lettre de Baudelaire, comme celui du poète qui cherche à accrocher l'accident de la flânerie. Qu'est-ce sinon l'activité du chiffonnier que de transformer tout accident de la flânerie en trésor ? Ici, cette morale désagréable. Le crochet qui accroche ou qui raccroche, c'est bien la figure de cette analogie. Sans doute, me direz-vous, le coin de la borne ne figure-t-il pas littéralement sous la plume de Baudelaire ? Et il est l'un des seuls écrivains du XIXe siècle chez qui l'expression ne soit pas littérale. En tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé, mais peut-être allez-vous m'aider. Toutefois, dans La Fanfare l'eau, texte très intéressant, texte de jeunesse, le plus proche de la période de la Bohème et peut-être de Champfleury, dans La Fanfare l'eau, texte pour lequel il faut lire Janin et Champfleury, Samuel Cramer, le héros de La Fanfare l'eau, est, écrit Baudelaire, l'un de ces hommes pour qui toute occasion est bonne. Et vous vous souvenez ici de ce que j'ai dit de l'occasion la semaine dernière, l'occasion qui est l'aubaine qui se transforme en seconde main au XIXe siècle. Au début du siècle et à la fin du XVIIIe siècle, occasion ne veut encore dire qu'aubaine et ça se transforme en objet usagé qui est remis sur le marché. Toute occasion est bonne pour Samuel Cramer, même une connaissance improvisée au coin d'un arbre ou d'une rue. Même une connaissance improvisée au coin d'un arbre ou d'une rue. Baudelaire ouvre un tiret, ici, et écrit « Fus d'un chiffonnier » pour développer opiniâtrement leurs idées. Qui rencontre-t-on au coin d'une rue? Eh bien, c'est en effet le chiffonnier. Si la borne manque dans cette phrase de Baudelaire, le coin et le chiffonnier sont présents, inconcevables sans la borne. Le coin de la rue où se dresse toujours une borne à Paris au XIXe siècle, ce coin de la rue, eh bien, c'est le lieu même où trouver le chiffonnier, c'est le lieu où le rencontrer, le chiffonnier qui est une variante du flâneur, qui est le type même du conversationniste populaire. La mention du coin d'une rue appelle donc immanquablement la silhouette du chiffonnier philosophe. C'est tout un thème que l'on rencontrera souvent, celui du chiffonnier philosophe. Il est le flâneur, il est la variante populaire de la flânerie et il y a un chiffonnier philosophe très connu à travers le XIXe siècle à qui on aura l'occasion de revenir à différentes reprises. Le voici dans une illustration qui traverse tout le XIXe siècle. Il s'appelle, il porte un très beau nom, il s'appelle Liard. Liard, le chiffonnier philosophe. Paraît-il, il y a beaucoup de récits sur le chiffonnier Liard que l'on rencontrera, il sait le grec et le latin. Cela veut dire que c'est un homme qui a connu des revers de fortune. Et comme vous le voyez, au fond, ce n'est pas un chiffonnier professionnel. Le chiffonnier professionnel a une hotte. Sur la hotte, la médaille est fixée. S'il n'a pas de hotte ni de médaille, c'est qu'il est un chiffonnier flâneur, un chiffonnier amateur, puisqu'il a un havresac sur l'épaule. Ce chiffonnier Liard, dont tout le monde parle au XIXe siècle, que ce soit Nerval ou beaucoup d'autres. Et ce que vous voyez dans le fond est aussi intéressant sur cette gravure très célèbre de Liard, qui est publiée dans le Charivari en 1834. Ce que vous voyez, c'est on est à la barrière. Au fond, à droite, il y a une table où le chiffonnier qui est bien connu pour aller dépenser les quelques sous de son gain dans un débit de boisson à la barrière, puisque le vin coûte moins cher de l'autre côté de la barrière d'octroi. Donc c'est là que se retrouvent les chiffonniers le dimanche. Vous voyez que le chiffonnier Liard n'est pas dans une scène de rue parisienne, mais il est très clairement situé au-delà de la barrière d'octroi, dans un débit de boisson, modèle du chiffonnier flâneur. Je terminerai en parlant d'un dernier aspect de ces bornes. Les bornes le long des rues parisiennes, c'est donc le lieu de la misère, c'est l'oreiller du pauvre, comme disait Victor Hugo. C'est le lieu où naissent les enfants trouvés, où on abandonne les enfants comme les petits chiens. Et on verra revenir dans une des prochaines séances tous les animaux que l'on trouve au coin de la borne. C'est le lieu de la prostitution pour ces femmes qui ont descendu tous les degrés de la hiérarchie de la courtisanerie. Enfin, c'est le lieu de l'ivrognerie. La borne est le territoire théâtral de l'ivrognerie. Et bien entendu, les chiffonniers sont les ivrognes par excellence. J'allais dire les ivrognes par antonomase, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que j'avais abusé de l'expression éponyme la semaine dernière. Alors je n'ose plus employer des mots savants. J'ai dit que la poubelle était éponyme. Bien sûr, je sais que c'est le préfet qui est éponyme de la poubelle. Et je me suis permis un léger abus pour faire coïncider ce bac vulgaire avec un mot savant, et donc je n'oserais plus le faire. Et je dirais simplement que le chiffonnier est l'ivrogne par excellence au XIXe siècle. Et pourquoi ? Parce qu'il ne supporterait pas, sans l'abrutissement de l'alcool, l'ignominie de son activité, le contact constant de ses ordures. Et leur réputation veut en effet qu'ils dépensent leur moindre gain la nuit dans les bouges des halles, que l'on reverra à l'occasion, et le dimanche aux barrières. Ainsi, le premier exemple que Pierre Larousse donne d'une caricature dans le très long article « Caricature » de son dictionnaire, auquel il faut toujours se référer pour essayer de comprendre ce qui se produit dans cette littérature, eh bien, le premier exemple de caricature que donne Pierre Larousse est celui-ci. « Un ivrogne roule dans le ruisseau, sous les yeux d'un chiffonnier assis non loin de là sur un banc. Le chevalier de la lanterne, autre surnom du chiffonnier, chevalier de la lanterne, considère avec envie le disciple de Bacchus. Il s'écrie, animé d'un doux espoir, et dire que je serai comme ça dimanche, de l'autre côté de la barrière. Voilà ce qui est assez bien illustré. Ah, j'avais oublié que j'avais aussi retenu cette citation de Pierre Larousse parmi mes diapositives. Et voici une caricature de Daumier qui illustre assez parfaitement cette réputation du chiffonnier. C'est de la série Vulgarité, 1841 dans le Charifari, un homme qui, dans la rue, et vous voyez l'ivrogne est toujours appuyé à la borne, au coin de la borne, dans la rue, l'homme dit au chiffonnier « Ne laissez donc pas votre ami dans cet état-là » et le chiffonnier répond, toujours avec sa hotte et son crochet, « Ça, mon ami, c'est mon portier. » Ce qui nous renvoie à la discussion que nous avons eue la semaine dernière sur les chiffonniers qui ont leur rue ou leur quartier, ceux qu'on appelle les placiers, qui sont donc moins coureurs que les autres, puisqu'ils ont un territoire privilégié de quelques maisons ou de quelques rues. Alors, je dirais que ces bornes comme lieu de l'ivrognerie, ce coin de la borne comme lieu de l'ivrognerie, je crois qu'on le retrouve aussi chez Baudelaire, par exemple, dans Le vin de l'assassin, où elle fournit au protagoniste qui est pris de boisson le cadre dans lequel il risque d'être renversé par un tombereau du nettoiement. Et voici le poème. « Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort. Alors, sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre et je dormirai comme un chien. Le chariot aux lourdes roues, chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la sainte table. » Et cela nous rappelle combien ces accidents étaient courants, combien ces accidents qui faisaient l'objet de statistiques étaient courants dans les rues de Paris la nuit et le jour, où des corps étaient coupés par le milieu par ces wagons, ces lourds tombereaux de la voirie. Et il faut parler de ces accidents que Mercier évoquait lorsqu'il signalait l'absence de trottoirs à Paris. Mais il faudra beaucoup de décennies pour qu'il y ait des trottoirs partout à Paris, et il y a encore beaucoup d'accidents. Je vous rappelle ce que je vous disais dans mon cours il y a quelques années sur Baudelaire, hein, ce fameux carrefour des écrasés qui était le carrefour de la rue Montmartre et du faubourg Montmartre et du boulevard Montmartre, hein, où il y avait le plus d'accidents à Paris du temps de Baudelaire. Et je dirais que cette image de la vulnérabilité de l'ivrogne au tombereau de la voirie, elle est présente chez Baudelaire, elle est ici. On la retrouve encore dans les litanies de Satan. Elle revient sous la même forme, avec l'espoir toutefois que ce soit le diable qui vienne en aide aux misérables à la place de Dieu. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère, toi qui, magiquement, assouplis les vieux os de l'ivrogne attardé, foulé par les chevaux. L'ivrogne attardé sur l'oreiller du pauvre, l'ivrogne qui se trouve par terre, écrasé par ce chariot aux lourdes roues, foulé par les chevaux, c'est-à-dire allongé au coin d'une borne, comme sur une gravure de Daumier. Vous le voyez, ce coin de la borne qui est omniprésent dans les représentations, que ce soit les photographies de Marville ou les gravures de Daumier, qui est omniprésent dans la littérature française, chez tous les écrivains du XIXe siècle, et puis qui disparaît soudainement après la Première Guerre mondiale de la langue, où il n'apparaît plus, eh bien, il est tout à fait là, chez Baudelaire. Il remonte avec ce système de la chiffonnerie que l'on retrouve à la fois dans La Fanfarlot, dans une série de poèmes, et je dirais dans cette rencontre du chiffonnier philosophe au coin de la rue. Donc, la prochaine fois, eh bien, je regarderai la seconde expression d'Hugo et ses résurgences dans la littérature. Cette seconde expression, je vous le rappelle, elle portera sur la boue et la présence de la boue chez Baudelaire et ailleurs. Merci beaucoup.